Les colloques du Collège de France.
Mesdames, Messieurs, chers amis d'Yves Bonnefoy, j'ouvre la deuxième partie de notre réunion autour d'Yves et je vous salue, ceux qui sont venus maintenant seulement, et je suis heureux qu'on se retrouve ici. C'est à moi maintenant de présenter les conférenciers. Le premier, c'est John Naughton. Je ne sais pas s'il parle français ou anglais, mais ça, on le verra. John Naughton est professeur à Colgate University in the United States. Il a publié un grand livre sur la poétique de Yves Bonnefoy. Il a largement traduit ses poèmes en langue anglaise. Et puis, en bilingue, Yves Bonnefoy, Poems, 2017. Et il a également traduit Partage de midi de Paul Claudel et laissé une intention de salut, essai sur la poésie française moderne, 2012.
Merci. Je suis très heureux d'être avec vous, même à distance, pour cette occasion qui honore la mémoire d'Yves Bonnefoy. Le sujet qui m'a été proposé semble se limiter à la réception de l'œuvre d'Yves Bonnefoy dans le monde anglo-américain. Mais j'aimerais parler plus généralement de son rapport avec ce monde. Et dans la mesure où ce rapport ne va pas dans une seule direction, j'aimerais aborder aussi l'autre face de ce rapport, et m'interroger sur la question de l'influence que la culture et la poésie anglo-américaine a pu avoir sur l'œuvre de notre ami. Que mes auditeurs me pardonnent si dans ces quelques remarques je mets l'accent sur l'Amérique. Certes, je n'oublie pas l'importance d'autres pays anglophones pour le poète français. On sait son attachement à l'Irlande, par exemple, et à son grand poète William Butler Yeats, que Bonnefoy a beaucoup traduit et en qui il voyait le plus grand poète de son époque. Yves Bonnefoy a donné des conférences au Centre Yeats à Sligo en 1987, comme il en a fait en Écosse et à Oxford et à Cambridge la même année. Il a reçu un doctorat honoris causa de Trinity College Dublin, en 1992 et un autre d'Oxford en 2008. Le rapport avec l'Angleterre est long. Son premier séjour date de 1951. Plus important encore est son rapport à l'œuvre de Shakespeare, qu'il a passé presque toute sa carrière à traduire. 11 pièces avec des essais sur chacune d'elles, sans parler des sonnets et des poèmes. C'est cette longue expérience avec l'œuvre de Shakespeare qui a entraîné une réflexion profonde sur les différences entre le français et l'anglais et une conscience de la nature spécifique des traditions et des préjugés qui résident dans la poésie française depuis Racine. Il y a une opposition métaphysique entre les deux langues, dit Yves Bonnefoy en 1959. La tension de l'anglais est portée sur l'être particulier des choses. Son orientation est donc aristotélicien par opposition au platonisme du français, dont le vocabulaire plus limité semble évoquer un monde d'essence. L'universel par opposition au particulier. Traduire Shakespeare par conséquence est une lutte du français avec sa propre nature et le défi qu'une langue peut lancer à une autre. Ce que Bonnefoy observe surtout au travail dans l'œuvre de Shakespeare, c'est le désir de se libérer de la transfiguration du monde et surtout de l'autre. Transfiguration qui est le péché originel de la poésie lyrique. Mais je veux revenir à mon point de départ, là où j'ai dit mon intention de me concentrer sur le rapport du poète avec l'Amérique. Commençons par ce qu'il y a de plus évident. Yves Bonnefoy a passé beaucoup plus de temps aux USA que dans les autres pays anglophones. À de différents moments, il était professeur invité à un bien grand nombre de nos universités et son contact avec l'Amérique a été constant pendant 40 ans. Faisons le bilan. La première visite était en 1958, quand il était à Harvard, dans le Massachusetts, pendant 2 mois. Puis, il était à l'université Brandeis, également dans le Massachusetts, pendant 5 semestres à partir de 1960. Le voyage en 1960 a été décisif d'ailleurs, pour d'autres raisons, puisque pendant le voyage sur le Queen Mary, il a rencontré Lucy Bynes, artiste américaine, celle qui allait devenir sa compagne pendant plus de 50 ans et une présence constante dans ses poèmes depuis Pierre écrite de 1965. Bien que Bonnefoy ait refusé la proposition d'une chaire permanente proposée par Brandeis, mais aussi par New York University, Columbia et l'Université de Californie à San Diego, il a néanmoins continué à passer de nombreux semestres aux USA. L'Université de Pittsburgh en 71, l'Université Wesleyan dans le Connecticut en 1972. Yale University également dans le Connecticut en 1977, 19 et 84. L'Université de Californie à Santa Cruz en 1978, Williams College dans le Massachusetts en 1985 et 95, et surtout City University of New York, invité une première fois en 1986 par Marianne Cause, qui assurera ses visites jusqu'en 1997. Et je ne veux pas oublier l'Université de Chicago, dans l'Illinois. Il lui a donné un autre doctorat honoris causa en 1988. Et dont les presses universitaires ont publié des traductions de ses œuvres depuis 1984. Non seulement sa poésie et ses essais critiques, mais aussi le dictionnaire des mythologies qu'il a édité. Les semestres passés aux USA constituent à chaque fois d'assez longs séjours, quelquefois de plusieurs mois. Pardonnez-moi la longue chronologie, mais c'est juste pour montrer que le contact avec l'Amérique a été vraiment considérable et a permis aux poètes de vivre à des endroits variés d'un vaste pays. Malgré ce long et fructueux contact avec l'Amérique, on cherche en vain une vraie influence de la poésie américaine sur Yves Bonnefoy. Dans les presque 19 sonnets qui font partie de la longue chaîne de l'encre de 2008, il y a une série de poèmes consacrés à d'autres poètes. Mais aucun poète américain n'apparaît dans ces évocations. Il y a Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Leopardi, Wordsworth, mais l'absence de poètes américains est frappante. Il y a peut-être une allusion au suicide de Hartcrane, qui n'est pas nommé, dans le poème « Un poète », mais c'est tout. Et parmi toutes les traductions d'Yves Bonnefoy, Shakespeare, John Donne, Yeats, Keats, Petrarch, Leopardi, je ne trouve que des traductions de 3 poèmes américains, un poème de Emily Dickinson, un poème de Galway Kinnell et un poème de Robert Frost. Dans les cours qu'il a donnés à Yale University en 1979 et auxquels j'ai assisté, Yves Bonnefoy contrastait la poésie américaine contemporaine à la poésie française contemporaine en disant que la poésie américaine avait tendance d'aller en direction du récit, créant comme des espèces de mini-romans que le lecteur ou le critique pouvait assimiler au langage ordinaire. La poésie française pratiquée par Yves Bonnefoy et ses proches rejette ce qui peut être exprimé par le concept et cherche à donner expression à une expérience à peine discernible, une expérience que les mots ne peuvent pas dire directement, mais qui est senti dans ces mots dans la mesure où ils ne sont pas son expression explicite. Ces idées constantes dans la poétique d'Yves Bonnefoy sont déjà présentes dans un essai intitulé « La critique anglo-saxonne et la critique française » publié en 1958. Selon l'analyse de Bonnefoy, la critique anglo-américaine, suivant la direction de sa poésie elle-même, aura tendance à vouloir identifier un sens qui peut être rendu dans un langage conceptuel qui fait du poème un objet. La critique française, par contre, au moins dans certains de ses aspects, verra la poésie comme une activité et cherchera les moyens de revivre une expérience qui résiste à l'approche purement conceptuelle. C'est le poème « Stopping by Woods on a Snowy Evening » de Robert Frost que Bonnefoy a choisi de traduire et auquel il a donné le titre « Une halte dans les bois par un soir de neige ». Ce poème semble incarner le genre de poème-récit que Bonnefoy a vu comme étant typiquement américain. Le narrateur dans le poème s'arrête dans les bois d'un voisin et contemple la neige qui remplit ces bois qu'il voit comme étant beau, profond et noir. Leurré un moment par ce spectacle, il rappelle les promesses qu'il a à tenir et la longue route qu'il a à faire avant de dormir. Il est vrai que le moi qui parle dans ce poème n'est pas identifié et on ne sait pas exactement où l'on est. La critique américaine a vite interprété le poème comme contenant une leçon morale du genre « Malgré les obstacles et les distractions de la vie, il ne faut pas oublier ses devoirs. » Un arrière-plan autobiographique a été identifié par certains critiques américains qui situe le poème dans un moment de découragement dans la vie de Frost, abattu par sa situation financière, et d'autres, plus inventifs, ont cru qu'il s'agit d'un médecin de campagne faisant sa tournée. Dans son poème, Frost évoque la neige comme simple phénomène naturel. Elle occupe une place dans le tableau de son poème, c'est tout. Ce sont les bois, et non pas la neige, qui semblent avoir une attraction capable de leurrer le voyageur et de l'égarer de ses obligations. Pour Bonnefoy, la neige est beaucoup plus que sa simple apparence. Elle est la préoccupation centrale de la collection intitulée « Début et fin de la neige » de 1991. Et il est à noter que beaucoup de ses poèmes ont été inspirés par des moments passés dans le Massachusetts et par des promenades que le poète faisait dans la neige de Hopkins Forest. « Je dois vraiment beaucoup à Hopkins Forest », écrit-il dans le poème qui a pour titre « Hopkins Forest ». Dans les poèmes de début et fin de la neige, l'attention du poète est concentrée sur une matière qui est essentiellement éphémère, toujours se configureront de façon nouvelle. Elles rappellent et la précarité de tout ce qui existe et le manque de stabilité et de permanence dans la parole qui voudrait s'en rendre compte. Voici un passage tiré du poème « Le peu d'eau ». À ce flocon qui sur ma main se pose, j'ai désir d'assurer l'éternel en faisant de ma vie, de ma chaleur, de mon passé, de ces jours d'à présent, un instant simplement, cet instant-ci sans borne. Mais déjà, il n'est plus qu'un peu d'eau qui se perd dans la brume des corps qui vont dans la neige. Cette constatation de l'éphémère peut être joyeuse, comme le montre un autre poème sans titre. Flocon, bévu sans conséquence de la lumière, l'une suit l'autre et d'autres encore, comme si comprendre ne comptait plus, rire davantage. Il faut noter, parce que ça fait partie du sujet que j'explore, que la critique américaine a quelquefois enregistré son impatience avec l'orientation poétique d'Yves Bonnefoy. « On a du mal à savoir de quoi il s'agit », proteste David Muse, par exemple. « C'est toujours de quelque chose d'autre que de lui et de moi qu'il s'agit. » Muse croit qu'il n'est pas invité à participer directement à une expérience, qu'il est barré de celle-ci par le ton élevé, par des allusions, par le caractère métaphorique et raréfié. Et Emily Grossholz, dans un essai publié dans le Hudson Review en 1990, offre la critique suivante. Étant donné les prédispositions de nos cultures et de nos langues, le nombre croissant de lecteurs américains de la poésie et de la prose d'Yves Bonnefoy pourrait souhaiter par moments qu'il modère ses abstractions galliques avec une plus grande concrétisation historique. Et il est indéniable que la poésie d'Yves Bonnefoy, comme celle de beaucoup d'autres poètes de sa génération, suit une voie qui n'est pas celle des poètes américains. Surtout qu'elle cherche à atténuer le moi particulier pour se concentrer sur une ontologie simple, sur un moi plus universel. S'il fallait essayer de résumer brièvement l'orientation poétique d'Yves Bonnefoy jusqu'au début des années 80, on ne pourrait faire mieux que de se référer à ce que le poète lui-même a souligné dans un entretien de 1976 avec John E. Jackson. On voit que Bonnefoy a très consciemment assumé comme principaux piliers de sa poétique les éléments même de ce qui constitue la critique lancée contre lui. J'ai pressenti dès la fin de mon époque surréaliste, dit-il, une poésie qui ne chercherait pas à formuler nos problèmes d'existence, c'est l'affaire de la pensée, ni davantage à me faire apparaître dans ma figure particulière supposée mesure du vrai. Ce serait, malgré l'apparence, une présence par le dehors, une rhétorique. Mais portrait d'emblée la conscience en acte, dans le champ des forces en jeu, celle qui détermine autant que celle qui vole, celle de l'inconscient mais aussi celle de l'être, et les composerait en si et façon, le moi se faisant plus large, se déconditionnant du nom, du passé psychique, à force d'interroger l'action de la finitude du fait sur l'infini de la langue. Même plus tard, en 2010, Yves Bonnefoy dira, et je cite, que la poésie est d'abord, si ce n'est pas seulement même, ce qui se dégage des préoccupations ordinaires. Et pourtant, comment expliquer ces poèmes que l'on trouve dans la partie « La maison natale » dans la collection Les planches courbes de 2001, où le poète examine un passé psychique justement, car il évoque avec une franchise remarquable la structure familiale de ses origines. Qui plus est, certains de ses poèmes rappellent ce qui est supposé caractériser la poésie anglo-américaine, celle qui tend vers le récit. Je prends comme exemple un des poèmes les plus émouvants du recueil, où il y a une évocation d'un moment dans le rapport entre le poète et son père. J'imagine que beaucoup de mes auditeurs reconnaîtront ce poème. Je ne lirai que sa deuxième partie. Dans la salle à manger de l'après-midi d'un dimanche, c'est en été, les volets sont fermés contre la chaleur, la table débarrassée, il a proposé les cartes, puis s'il n'y a pas d'autres images dans la maison natale pour recevoir la demande du rêve. Mais il sort, et aussitôt l'enfant maladroit prend les cartes et substitue à celles de l'autre jeu toutes les cartes gagnantes. Puis il attend avec fièvre que la partie reprenne et que celui qui perdait gagne, et si glorieusement qu'il y voit comme un signe, et de quoi nourrir, il ne sait, lui, l'enfant, quelle espérance. Après quoi, deux voix se séparent, et l'une d'elles se perd, et presque tout de suite, et ce sera tout de même l'oubli avide. J'aurais barré 100 fois ces mots, partout, en vers, en prose, mais je ne puis faire qui ne remonte dans ma parole. Le poète s'avoue hanté par son sujet, qu'il a déjà traité de plusieurs manières sans en être satisfait. Les efforts qu'il a faits, non seulement en vers, mais aussi en prose, montrent qu'il reconnaît que son sujet se prête logiquement au récit. Mais ce sujet, tout en restant récit, s'ouvre à une dimension plus mythique, comme le montrent les allusions au mythe de Cérès. Le poète ne se nomme pas, il n'assume même pas le jeu du genre autobiographique, sauf à la fin, quand il évoque son statut d'écrivain et les problèmes et les choix que ce statut l'oblige à affronter. Même si le texte est voué au particulier, on voit une maison pauvre et sans tableau, les restes d'un repas dominical, des cartes sur une table. Ils tendent aussi bien à l'universel, l'enfant dans son rapport à un parent. Et le sujet profond du poème est moins le jeu de cartes que ce jeu représente, c'est-à-dire le désir de l'enfant de donner espérance à un être qui souffre. Dans le poème, dans un poème de la série « Raturé outre » dans l'heure présente de 2011, Bonnefoy donne expression à la frustration de l'enfant qui voudrait aider le parent qui tombe. Mais comment accepter de n'avoir pu répondre à qui avait désir d'espérance? Qu'aurais-je dû offrir qui pût aimer? Qu'aurais-je pu lui dire qui eût sens? Le fleuve, son eau cogne à des portes closes. Peut-on dire que les planches courbes marquent un tournant dans le développement d'Yvonne Foy? Il est certain que les grandes préoccupations de toujours sont investies comme jamais auparavant des traits de l'humble et simple réalité d'une personne, marquée par la douleur, soulevée par l'espoir. J'ai fait la connaissance d'Yves en 1978, quand il était invité à passer un semestre à l'Université de Californie à Santa Cruz, où j'ai enseigné. L'université était bâtie sur des collines qui donnaient sur le Pacifique et est divisée en plusieurs facultés. Yves était logé à Cowell College, dont le petit appartement évoqué dans un curieux poème en prose intitulé « L'Amérique », qui se trouve dans la collection « Le théâtre des enfants » de 2001. Et tout comme le narrateur de ce poème, Yves descendait le matin vers un restaurant en bas qui était tout près de la route 1 qui allait de Santa Cruz jusqu'à San Francisco. On a suivi cette route, lui et moi, plusieurs fois en voiture. Lui qui ne conduisait pas, ravi que je lui propose ma voiture et la possibilité de visiter les environs. Je me rappelle un moment quand nous suivions cette route, California Highway 1, et étant donc entre le Pacifique d'un côté et les champs et les collines de l'autre. « Nous voici entre mer et terre, lui avais-je dit spontanément. Laquelle préférez-vous ?» Et sans la moindre hésitation, il a répondu « La terre ». L'Amérique est un texte très difficile à interpréter, au moins comme le ferait une analyse qui voudrait réduire le sens d'un poème à un ordre conceptuel. Il n'y a pas, dans ce texte, cette concrétisation historique demandée par Emily Grossos. Yves Bonnefoy évoque une petite maison, une colline, un restaurant, une route, des enfants. Nous savons cependant que nous sommes en Californie et que le Pacifique est tout près, puisqu'ils sont nommés explicitement. Allons vers ce restaurant. Quand le jour se lève, le narrateur voit des foules de jeunes qui tiennent par des fils des ballons qui ont toutes les formes, toutes les couleurs. Et le narrateur dit « L'impression d'étrangeté absolue qui se dégageait de ce grand cortège, encore pour moi presque silencieux, n'était pas plus forte que celle de l'infini que je me plaisais d'y ressentir. » Et il ajoute « Je commençais à comprendre bien d'autres choses. Je voyais s'éclairer le sens de cette civilisation, l'Amérique. » Il prend donc des notes dans l'espoir qu'ils peuvent l'aider, et je cite, « à donner forme plus explicite et complète de l'Amérique et de tout. » Mais à regarder ces notes des années plus tard, il n'y trouve aucun sens. Bientôt, cependant, les mots qu'il ne comprenait pas commencent, et je cite, « à bouger, à rougeoyer faiblement, et ce furent à nouveau des images, d'abord floues, mais bientôt assez précises. » Et le narrateur voit se déployer une autre scène, celle d'autres enfants, plus jeunes que ceux qu'il avait vus en Californie, qui grimpe avec peine des pentes escarpées dans l'obscurité, tenant eux aussi des ballons par des fils, mais qui se cognent, qui craquent, qui se déchirent. Le texte se termine avec la vision d'un enfant qui essaie, et je cite encore, qui essaie de revenir en arrière et qui se heurte aux autres, eux si requis, par la difficulté d'aller de l'avant et de retenir leur ballon qu'ils ne le voient même pas. Cet enfant ne peut ou ne veut répondre aux questions posées par le narrateur. Où vas-tu? Comment t'appelles-tu? Que signifie cet enfant qui veut revenir en arrière, mais ne sachant pas où? Cette présence enfant que le narrateur reconnaît, comme il dit, à travers le moindre de tous les mots que j'écris et au secret de tous les tableaux que j'aime. Est-ce qu'il est la figure de l'enfant que l'on trouve dans d'autres poèmes d'Yves Bonnefoy, l'enfant qui porte le monde, l'enfant qui voit tout ce qui existe comme une unité que les mots qu'il apprendra plus tard vont fracturer. Revenir en arrière, voir comme voit l'enfant, au moins dans des moments privilégiés, n'est-ce pas le désir du poète? Cet enfant et donc à suivre, même après le défilé si coloré de l'Amérique. Pour terminer, j'aimerais dire que la réception dans le monde anglo-américain de l'œuvre d'Yves Van Foy, et surtout de l'homme lui-même, est en partie à trouver dans le nombre de poètes, de critiques, de professeurs et de traducteurs qui ont consacré leur temps et leur énergie à soutenir l'importance de son travail. Permettez, Michael Edwards, Edward Kaplan, Richard Stammen, Mary Ann Cause, Anthony Rudolph, Stephen Romer, Richard Pevier, Hoyt Rogers, Galway Connell, Emily Grossholtz, Beverly Bree Brahak, Mark Hutchinson, Michael Bishop, John Taylor et d'autres encore. Je veux les saluer tous en ce moment. Citons Yeats. Yves Van Foy disait quelquefois à propos de ses amis anglophones qui avaient collaboré avec lui, créant comme une sorte de communauté, « Ma gloire fut d'avoir de tels amis. » Mais la gloire était certainement à nous, car notre contact avec cet être exceptionnel a enrichi nos vies plus que les mots ne sauraient dire. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.